B comme biodiversité et 2010 comme l'année de la biodiversité. On vit une époque formidable. À l'heure de la globalisation, de l'éthique dans le capitalisme et de la mondialisation de l'information, chacun, chacune est amené à prendre conscience des défis pour sauver la planète. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies a proclamé 2010 année internationale de la biodiversité pour alerter l'opinion publique sur l'état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde. La biodiversité recouvre l'ensemble des formes de vie sur Terre ainsi que les relations établies entre elles. Sur l'ensemble de la planète, la biodiversité, depuis les bactéries jusqu'aux plantes, depuis les espèces jusqu'aux écosystèmes, est en déclin. En quelques décennies, les altérations et les destructions causées par l'homme aux écosystèmes naturels, en particulier les forêts primaires, forêts tropicales, les zones humides, les mangroves, les lacs, les rivières, les mers et les océans, ont crû à un rythme inquiétant. Depuis 2000, les forêts primaires ont perdu 6 millions d'hectares par an. Près de 20% des récifs coralliens ont été détruits, du fait notamment de la pollution et de la surpêche. Et on annonce une disparition de 11% des espaces naturels d'ici à 2050, soit la superficie de l'Australie, et de 60% des récifs coralliens d'ici 2030. Mais les estimations des scientifiques sont régulièrement revues à la hausse, pour cause d'un effet d'emballement des phénomènes liés justement à leur interdépendance. Selon l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire publiée par les Nations Unies en 2005, les taux actuels d'extinction d'espèces seraient jusqu'à 1 000 fois plus élevés que les niveaux jugés naturels. 25% des espèces connues auront peut-être disparu d'ici à 2050. Et nombre de scientifiques pensent que la Terre est près de connaître une phase d'extinction de masse. Il y a une limite aux dommages que nous pouvons infliger aux environnements dont nous dépendons. Depuis la révolution industrielle, l'humanité traite les ressources naturelles comme si elles étaient infinies. Or, c'est la biodiversité qui est une ressource en tant que telle, mais ses équilibres sont fragiles. La biodiversité soutient quantité de processus des écosystèmes naturels, tels que la qualité de l'air, la régulation climatique, le renouvellement des sols, la purification de l'eau, la lutte contre les parasites et les maladies, la pollinisation et la prévention des érosions. Le bien-être et la survie des humains est difficilement concevable sans une biodiversité florissante. Les systèmes alimentaires sont fortement dépendants de la biodiversité et une proportion considérable de médicaments est directement d'origine biologique. Des pans entiers de nos économies dépendent également de la biodiversité et les pauvres de la planète sont, comme toujours, les plus exposés aux risques liés à la perte de biodiversité parce qu'ils sont les plus dépendants des ressources et des services des écosystèmes en voie de dégradation. La biodiversité est un bien public global, comme il le fut reconnu en 1972 par la Convention sur la biodiversité. Les trois objectifs de cette convention sont la conservation de la diversité biologique, son utilisation durable et le partage juste et équitable des bénéfices liés à l'usage des ressources génétiques. Ces dernières années, l'objectif principal a été de réduire le rythme de perte de biodiversité, un but dont la réalisation s'est révélée ardue, qu'il s'agisse de mesurer l'état actuel de la biodiversité ou de mettre en œuvre des mesures et des pratiques propices à la biodiversité. Ça, c'est d'après le site de l'UNESCO. Pourquoi la biodiversité est-elle si précieuse? Quelles pourraient être les conséquences de son déclin sur les entreprises? En 2010, le discours sur la biodiversité a intégré le vocabulaire de l'économie de marché. Et ces questions commencent à inquiéter les tenants du capitalisme, dès lors que leurs profits sont mis en péril. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a ainsi interpellé les acteurs économiques sur l'urgence de la sauvegarde de notre biodiversité. Nous allons perdre de nombreux biens et services écologiques que nous tenons pour acquis. Les conséquences pour l'économie et les individus seront graves. Des biens et services écologiques, c'est ce que les abeilles nous fournissaient gratuitement depuis des milliers d'années, en bonne ouvrière non syndiquée. Sauf que depuis 50 ans, tout comme bon nombre d'insectes pollinisateurs, elles sont victimes des pratiques mortifères de l'agriculture intensive qui les dégomme en masse. Réunis sous l'égide de l'UNESCO en janvier 2010 à Paris, des scientifiques du monde entier ont analysé les conséquences économiques de la réduction de la biodiversité par la disparition de nombreuses espèces. Les chiffres annoncés sont impressionnants. Ainsi, le coût de la seule déforestation serait de 1 350 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Un rapport de Bernard Chevassus au Louis, ancien directeur de l'INRA, estime que la perte de la biodiversité pourrait atteindre jusqu'à 7% du produit intérieur brut mondial. À titre d'exemple, les services rendus par les abeilles sont évalués à 2 milliards d'euros par an. Sympa les abeilles. Le rapport de Pavan Sukhdev va dans le même sens en parlant de la dégradation des services écologiques. Pour exemple, la disparition de la seule forêt de Massaola au Madagascar pourrait représenter une perte de 1,5 milliard de dollars pour l'industrie pharmaceutique, 5 milliards de dollars pour le tourisme et 4 milliards de dollars pour les 8 000 ménages qui utilisent des aliments, des médicaments naturels ou des matériaux de construction issus de cette forêt. Dit comme ça, ça parle bien plus aux tenants de l'économie capitaliste, qui mesure en milliards de dollars l'urgence de la situation. Lors du sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, 150 pays ont signé la Convention sur la diversité biologique. Mais les objectifs qui y ont été fixés sont loin d'être atteints. En cause, l'urbanisation croissante, la surexploitation des ressources, l'agriculture intensive, les rejets industriels, la surconsommation et le cynisme des gouvernements et des industriels. N'étant pas à une contradiction près, le ministère de l'Agriculture s'apprête par exemple à homologuer deux produits susceptibles d'avoir des effets nocifs sur les abeilles, le Cruiser des laboratoires Syngenta pour le maïs et le Proteus des laboratoires Bayer pour le colza, dont la fleur est très appréciée des abeilles. Comme le Gaucho des laboratoires Bayer et le Régent de BASF, dont l'utilisation a été suspendue en 2004, les agents neurotoxiques du Cruiser et du Proteus risquent de provoquer des troubles de l'orientation chez les abeilles et de contaminer l'ensemble de la ruche, ce qui ne va pas arranger leurs affaires. En cette année de la biodiversité, il est aussi conseillé aux entreprises de se responsabiliser et de gérer la question de son impact sur l'environnement, afin de créer, je cite, « de nouvelles opportunités de business ». Aujourd'hui, l'entreprise qui intègre la protection de la biodiversité au cœur de sa stratégie s'assure un développement économique durable. Selon Pavan Sudev, il nous faut inventer une nouvelle économie dans laquelle le capital naturel sera une valeur qu'il faut rémunérer. D'après le site NaturaVox, 2010 sera l'année de toutes les opportunités. Ah, le capitalisme au service de la nature, ça fait rêver. On lui reconnaît bien là cette capacité à intégrer les discours de ses détracteurs pour les tourner à son avantage. Les entreprises ont bien compris qu'en se disant green, elles valorisaient leur image auprès du grand public sans rien changer à leurs pratiques. Mais ça, ce sera le thème de notre rendez-vous à la lettre E pour éco-blanchiment. De son côté, la France répond à cet appel en déclarant la biodiversité cause majeure pour 2010. Et Toulouse n'est pas en reste, arborant fièrement des affiches où il est écrit qu'à Toulouse, il y a 1162 espèces d'animaux recensées. On cherche encore. Quoique, si on compte toutes les espèces de chiens, de chats et de naques, nouveaux animaux de compagnie, en plus des pigeons, des blattes et des mouettes, on doit avoir le compte. Le magazine d'information de la ville de Toulouse suit la tendance avec un dossier entier consacré à ce formidable réservoir de la biodiversité qu'est la ville de Toulouse, mère nourricière et gigantesque usine naturelle, la biodiversité offre de multiples biens et services. Malgré ces discours lénifiants, il faudra plus que quelques gestes éco-citoyens pour endiguer ce qui se prépare à être la sixième extinction massive des espèces. Et les êtres humains y survivront-ils ? Si on s'en tient aux appréciations issues du darwinisme très à la mode en ce moment, la Terre a connu 5 extinctions massives, sans compter les autres de moindre ampleur. Nous entamons la sixième. Les activités humaines sont responsables de la destruction de plus en plus de milieux naturels et elles commencent également à bouleverser le climat. Ce dernier phénomène, selon les spécialistes, devrait d'ailleurs devenir la première cause de la chute de la biodiversité dans le monde. Vient alors la question lancinante. Quelles sont les espèces qui vont disparaître et quelles sont les plus robustes qui survivront? Les plus vulnérables au changement rapide, destruction de l'habitat et changement climatique sont les espèces les plus spécialisées, celles qui dépendent le plus des caractéristiques spécifiques de leur environnement. Mais il existe une autre catégorie d'espèces qui ne survivent généralement pas aux extinctions, celles qui comptent des individus de grande taille. En 1971, déjà, les biologistes japonais Tomoko Ota et Motoo Kimura ont développé la théorie presque neutre de l'évolution qui stipule entre autres que les espèces dont l'effectif est modeste et qui possèdent une faible diversité génétique vont accumuler dans leur génome des mutations légèrement délétères. L'accumulation de ces caractéristiques sensiblement négatives diminue les capacités biologiques de ces espèces qui se dégradent peu à peu. Il se trouve que les espèces de grande taille sont souvent celles qui répondent à ce signalement. Les exemples les plus marquants sont probablement les placodermes, de gigantesques poissons qui ont disparu lors de l'extinction du Dévonien il y a 364 millions d'années, et les dinosaures, qui ont tiré leur révérence lors de l'extinction de la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Tout comme le mammouth ou le tigre à dents de sabre avant lui, et les éléphants, les baleines et les autres grands singes d'aujourd'hui, l'être humain fait partie des espèces de grande taille dont le génome se dégrade. Notre population est passée par un goulot d'étranglement trop récent pour que nous ayons pu acquérir une diversité génétique suffisante. Si nous attendons encore 500 000 ans, il est possible que nous corrigions le tir, mais il semble que la crise que nous préparons est bien plus imminente que cela. C'est un fait, les signes avant-coureurs sont préoccupants. Le taux de stérilité augmente dans la population humaine, ce qui est dû en partie à des problèmes génétiques. Homo sapiens se distingue aussi par une très forte compétition à l'intérieur de l'espèce. La diminution des ressources en eau, en nourriture et autres matières premières va entraîner une augmentation des tensions et des guerres entre nations. Et nous sommes toujours à la merci d'un nombre croissant de pandémies virales, comme la grippe aviaire, le H1N1, la fièvre d'Ebola, le sida, le SRAS. Si nous persistons à bouleverser notre environnement, il y a donc bien peu de chances que nous échappions aux lois de la nature. Personnellement, j'ai choisi mon camp. Je suis contre le capitalisme, même éthique, et je ne me reproduirai pas.
On vit une époque formidable plus un. Seul endroit habitable, on vit une époque formidable plus un. Seul endroit habitable, plus d'oiseaux, plus de poissons. Plus un seul endroit habitable, plus d'oiseaux.